Sur Radio Campus 106,6 FM, comme chaque mercredi, vous retrouvez à 17h30 le magazine Lille 1 Info. Avec aujourd'hui notre invitée Isabelle Custos. Bonjour Isabelle.
Bonjour René.
Donc tu es en charge du Collège Doctoral Européen Lille Nord-Pas-de-Calais et bien sûr tu travailles à l'Université de Lille 1.
Tout à fait, donc le collège doctoral Lille-Nord-Pas-de-Calais qui va d'ailleurs bientôt changer de nom puisque le PRESS est constitué, le PRESS donc, c'est-à-dire le pôle de recherche et d'enseignement supérieur donc, vient d'être créé par décret et donc désormais nous aurons donc un collège doctoral européen Université Lille-Nord-de-France car c'est le nom du PRESS en question. Et effectivement, le support administratif de ce projet interuniversitaire, c'est bien l'Université de Lille 1.
Donc une sacrée responsabilité, une mission importante.
Importante en tout cas pour le sens qu'elle donne effectivement à l'université, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la question de la formation doctorale de nos étudiants, qui sont donc appelés à être des jeunes chercheurs, soit dans le milieu académique, soit dans le monde de l'entreprise et de l'industrie, voire du tertiaire, est effectivement un enjeu très très important pour notre société, effectivement.
Dans cette action, plusieurs écoles sont concernées.
Oui, tout à fait. On a un très beau dispositif régional, donc dans lequel tous les établissements universitaires de la région concourent, y compris certaines écoles comme l'école centrale de Lille, qui est une école d'ingénieurs. Et donc nous avons aujourd'hui, donc en région Nord-Pas-de-Calais, 6 écoles doctorales thématiques qui sont inter-établissements. Et ça, c'est un dispositif qui fait figure de modèle. En France, parce qu'effectivement, dans bien des cas, une telle collaboration n'est pas encore acquise dans nombre de régions.
Mmh. Est-ce que ça a contribué un petit peu à la prise en compte de cette grande université et de la reconnaissance du gouvernement un peu sur le tard, on va dire, cette décision, mais qui s'est quand même faite un peu au forceps?
Oui, nécessairement, ça a contribué effectivement à la reconnaissance donc, du plan campus, du projet campus, parce qu'effectivement, on a quand même en région 2300 doctorants qui sont inscrits dans environ 135 laboratoires qui sont reconnus, des laboratoires d'excellente qualité scientifique, qui sont donc appelés à former à et par la recherche donc ces 2300 doctorants. On a 400 doctorants qui sortent à peu près tous les ans, diplômés. Et effectivement, c'est quand même l'avenir. Quand on voit aujourd'hui effectivement les liens entre cette sortie de doctorant et l'innovation et le lien avec l'économie de la connaissance, on voit bien que là, on a effectivement une possibilité effectivement d'agir sur le devenir de notre région et c'est donc très très important.
Mmh. Alors, ce collège doctoral européen Lille Nord-Pas-de-Calais, donc avec ce nom qui va changer,
oui, hein, tu me disais, le nom du PRESS,
donc on va essayer de s'habituer. Le PRESS, ça veut dire?
C'est le pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
D'accord. Et donc cette vocation européenne, elle se traduit comment? Peut-être un appel à mobilité des doctorants?
Et tout à fait. On a un appel à mobilité qui est important. En fait, ce que l'on souhaite, c'est via ce collège doctoral européen, c'est en fait présenter donc à nos partenaires européens, mais aussi à nos partenaires internationaux, mais on va commencer d'abord par les partenaires européens qui sont très importants parce que là aussi on a des collaborations scientifiques de très haut niveau avec lesquelles tisser des liens et des collaborations. Donc en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui via ce collège doctoral européen, c'est bien de promouvoir notre modèle de formation doctorale ici en région et donc d'être attractif, d'attirer des jeunes qui viendraient effectivement s'inscrire chez nous pour mener leurs 3 ans de thèse. Nous avons des projets, notamment actuellement nous avons un projet avec la région Nord-Pas-de-Calais qui consisterait effectivement à financer éventuellement des mobilités d'étudiants qui pourraient, et aussi des mobilités d'enseignants-chercheurs étrangers, européens, qui pourraient venir ici dans nos écoles doctorales.
Alors, l'université, c'est a priori le domaine de l'État. Le fait que des glissements se font d'une année à l'autre sur des responsabilités régionales, c'est vécu comment ?
C'est bien vécu. C'est bien vécu parce qu'aujourd'hui, on voit bien que on est tous, non pas contraints, mais on est tous amenés avec, je pense, beaucoup d'intelligence à travailler en collaboration. La région développe ses propres priorités de recherche qui peuvent parfois rencontrer celles de l'université, qui peuvent rencontrer les priorités scientifiques des universités de la région, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, la région Nord-Pas-de-Calais contribue quand même fortement à l'activité des écoles doctorales en finançant des allocations de recherche.
Quels sont les grands domaines spécifiques à notre région, à la recherche régionale, et en quoi ça peut être un nouveau moteur pour le développement économique ?
En fait, on a quand même, je pense qu'on est assez bien représenté dans l'ensemble des disciplines scientifiques, hein, y compris, alors bon, on a un gros laboratoire que tout le monde connaît, qui est l'IUMN, et qui est donc axé sur tout ce qui est nouvelles technologies de l'information et de la communication, et qui fait vraiment figure de modèle, qui est vraiment un des plus gros laboratoires de la région.
On va peut-être préciser le sigle, à quoi il correspond.
C'est l'Institut d'électro... oui, c'est ça, et microélectronique et nanotechnologie. Ouais. Et donc là, on a vraiment un dispositif qui fait figure de modèle, hein, qui rassemble de très nombreux chercheurs en association avec de nombreux organismes de recherche. Donc ça, c'est vraiment une figure de proue, on va dire. Ils ont d'ailleurs un très très gros, enfin un nombre important de doctorants, hein, qui travaillent au sein de ce laboratoire. On a aussi tout un volet très important sur les transports à Valenciennes, par exemple. Et puis on a aussi les sciences humaines et sociales, hein, qui sont souvent oubliées, qui aujourd'hui sont fédérés au sein d'un institut qu'on appelle la MESH, la Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société, et qui là aussi développe des projets très très intéressants, y compris en termes d'innovation, parce qu'on croit souvent que l'innovation est réservée aux sciences dures, alors qu'en fait elle concerne aussi les sciences humaines et sociales.
Voilà, donc cette Europe, elle se construit. Alors au départ, c'est vrai que c'était une Europe exclusivement économique. Là, on sent bien que l'aspect universitaire, recherche, c'est quand même quelque chose qui se développe. Il y a des passerelles entre les différents pays, entre les différentes formations également.
Oui, il y a de nombreuses passerelles, hein, en termes de formation, et nous, ce qu'on souhaiterait justement pouvoir mettre en œuvre au sein du Collège doctoral européen, hein, donc qui appartient à ce PRESS, Université Lille-Nord-de-France, c'est bien effectivement d'avoir des formations transeuropéennes, d'avoir des collaborations, des échanges de doctorants, d'avoir des échanges de professeurs pour avoir des cours avancés sur des thématiques très pointues. On voit bien, hein, que sur certains sujets scientifiques, très pointu, on rassemble finalement assez peu de monde, assez peu d'experts. Alors la solution intelligente, ça serait justement de pouvoir mutualiser un petit peu les cours qui sont donnés dans certains cas pour effectivement travailler ensemble et fournir un cours avancé à des étudiants qui seraient ici à Lille, pourquoi pas à Bruxelles, pourquoi pas à Cologne, sur des thématiques proches. Donc on pourrait faire travailler effectivement ensemble dans le cadre d'un atelier, d'un workshop, voilà.
Donc c'est vrai que cet aspect, à la fois de travailler ensemble mais dans un même lieu, on pourrait imaginer qu'à l'heure d'Internet, des nouvelles technologies et de la possibilité de travailler ensemble dans des lieux séparés mais avec des supports communs, des moyens de liaison, ce serait un peu dépassé. Or, l'humain, c'est quand même ce qui fait la force des équipes.
Mais oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que, bon, imaginons, hein, et d'ailleurs, ça fonctionne déjà, les réseaux existent et les réseaux fonctionnent très bien en utilisant les outils de communication hein, dont, que tu viens d'évoquer, René. Mais en même temps, on sait très bien que pour créer une collaboration en bonne intelligence, avec vraiment des relations presque d'amitié parfois, hein, qui se tissent et qui font que les choses avancent vite et bien, bon, effectivement, on ne peut pas remplacer le contact humain, hein, ça c'est clair.
Disons qu'il faut peut-être alterner les deux pour justement,
c'est
à
ça.
Partir de cette connaissance personnelle, on
c'est
aboutisse
ça.
À des échanges réciproques, quitte à ce qu'ils soient distants.
Voilà, voilà.
Isabelle Cussoz, est-ce qu'il y a dans notre région de grands événements, séminaires et autres qui sont prévus ?
Oui, alors il y a de régulièrement, hein, je dirais, la plupart des laboratoires de nos universités régionales et de nos grandes écoles aussi, hein, qu'on peut avoir en région, organisent régulièrement ce type de séminaire qui rassemble à la fois donc sur des thématiques relativement pointues, donc des chercheurs internationaux, mais aussi donc les nombreux doctorants qui sont invités parfois à prendre la parole, ou aussi à présenter des posters. Hein, ça, c'est quelque chose qui se fait souvent en école doctorale. On a la possibilité dans ce type de séminaire de faire présenter des posters par des doctorants donc, qui font un peu état de l'avancement de leurs travaux, de leurs objectifs. Donc c'est très fréquent en fait, hein, c'est très fréquent et bien souvent il y a un bon soutien de la part de la région mais aussi de l'État sur ce type d'événement.
Est-ce qu'en Europe, les rythmes sont un peu similaires ? Je parle des rythmes universitaires, donc avec périodes de cours intenses, examens et d'autres périodes de vacances ou d'absence de cours. J'ai entendu parler que pendant l'été, il y a des choses qui allaient s'organiser en des écoles d'été, des choses comme ça. C'est prévu ?
Oui, c'est prévu parce que c'est effectivement dans l'air du temps. Hein. La grande coupure juillet-août à la française n'est pas partagée dans tous les pays, hein, loin de là. Et déjà chez nos voisins, hein, les Belges, qui sont tout près de chez nous, on a vraiment une coupure estivale qui est réduite à 2 ou 3 semaines. Donc ils comprennent assez mal d'ailleurs hein, cette coupure du mois d'août et ça se sent d'ailleurs dans un certain nombre d'appels à projets qui sont financés par la Commission européenne par exemple et pour lesquels systématiquement on a des dates de clôture en plein milieu des vacances d'été et auxquels donc les Français ont parfois un petit peu du mal à répondre bah, parce qu'effectivement les gens souhaitent prendre leurs vacances. Bon donc ça on sent bien que bon, cette coupure de 2 mois va s'estomper progressivement et en réalité dans les labos elle l'est déjà très fortement parce que effectivement on a quand même des gens actifs bon. Sur le campus en dehors des cours et donc dans les labos pour faire avancer la recherche et effectivement c'est pas une coupure de 2 mois hein, l'été.
Bon, maintenant, les Français sont très attachés à ces périodes qui permettent de se ressourcer également. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à admettre les règles des autres, les règles européennes ? Est-ce que c'est bien ressenti ?
Ben ça, malheureusement, je peux pas me prononcer là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est quand même dans un modèle où on va être amené à se positionner les uns par rapport aux autres. Et notamment sur la réactivité par rapport à certains contrats de recherche, par rapport à certains projets de recherche, eh bien, elle va entrer en ligne de compte de façon très importante. Donc, mais là encore, je dirais, on a parfois une fausse idée de ce qui se passe l'été sur les campus universitaires parce qu'il y a bien plus de gens qui sont aux manœuvres qu'on ne le croit.
Donc, on l'a compris, cette ouverture européenne met en phase les chercheurs du monde entier, et là, les doctorants. Donc, entre ces chercheurs et ces doctorants, on peut dire que le lien est le même dans toute l'Europe ?
Alors, non. Justement, par exemple, en France, on a encore beaucoup tendance à considérer le doctorant comme un étudiant. Hein, alors que dans de nombreux pays, il est considéré comme un chercheur à part entière. Et c'est d'ailleurs ce que l'Europe souhaite voir mettre en œuvre via une charte européenne du jeune chercheur qui en fait concerne le doctorant. Mmh. En fait, le doctorant est presque un salarié du laboratoire. Hein, quand un doctorant a une allocation de recherche, quand il peut mener sa thèse avec une allocation de recherche, en fait, c'est l'équivalent d'un contrat de travail. Un contrat de travail de 3 ans, durant lequel, effectivement, il va travailler au sein d'un laboratoire pour la mise en œuvre d'un projet de recherche. Hein. Et donc, effectivement, on peut... En France, on a encore tendance à considérer le doctorant comme un étudiant, mmh. alors qu'il est déjà dans le monde du travail, en quelque sorte. Même s'il est encore... dans un milieu universitaire.
C'est juste une question de mentalité et peut-être aussi de hiérarchie.
Alors, où est-ce que tu veux m'emmener là, René?
Moi je pose mes questions, après les gens font ce qu'ils veulent. Hein.
Bon, c'est vrai que... C'est vrai qu'un doctorant, il est encore jeune, hein, quand il est, la plupart sont encore jeunes, il faut le reconnaître, hein, quand on sort d'un master, même si on est brillant, même si on est réactif, même si on connaît beaucoup de choses, bon, on a 22, 23 ans, et c'est vrai que c'est encore un peu jeune. Mais justement, il y a les 3 ans de la thèse pour faire ses expériences, pour constituer ses réseaux, et finalement pour agir comme un vrai professionnel.
Mmh. Le doctorant, une fois qu'il a accompli ses 3 ans, j'allais dire de stage, mais on peut dire aussi de travail, mmh. Est-ce qu'il est après susceptible, ou si on prend des statistiques, hein, de trouver un emploi dans l'endroit où il a exercé son...
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les choses sont très mouvantes sur cette question-là, justement. Pendant très longtemps, on a eu, si vous voulez, si tu veux, René, la formation de doctorant pour en fait reproduire un corps d'enseignants-chercheurs et de chercheurs en monde académique et universitaire. Aujourd'hui, on souhaiterait justement que les compétences acquises par ces jeunes gens, donc dans le cadre de la formation doctorale, puissent être utiles ailleurs qu'à l'université ou dans les laboratoires de recherche. Justement pour participer à ce qu'on appelle l'économie de la connaissance et donc l'innovation et donc la création de richesses, hein, si je peux utiliser ce mot entre guillemets, mais un développement économique grâce à l'innovation scientifique, voire même en sciences humaines et sociales, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Donc là, on sent bien qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour attirer ces jeunes docteurs, non plus uniquement vers la voie académique, mais bien vers le monde de l'entreprise et de l'industrie. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Et il n'y a pas très longtemps, je pense, sur votre antenne, on venait parler des doctorants conseils, mmh. qui est donc un nouveau dispositif mis en place par le ministère, qui consiste effectivement à offrir la possibilité à un doctorant d'intervenir en entreprise.
Voilà, donc cette évolution, elle se fait quand même finalement assez rapidement. Il y a presque des changements culturels qui se mettent en place là.
Oui, je pense qu'il y a des changements culturels qui se mettent en place parce que ces dernières années, on a beaucoup parlé de valorisation de la recherche. Alors, bien sûr, les scientifiques diront toujours, et ils ont absolument raison, et il faut absolument faire en sorte qu'on puisse avoir un volet de recherche fondamentale qui soit maintenu, financé, et qui puisse encore attirer des chercheurs, hein, pour vraiment des travaux donc en thèse de recherche fondamentale. Et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle la recherche appliquée, hein, là, qui consiste effectivement à voir comment mettre en œuvre des découvertes, donc qui peuvent se traduire par ce qu'on appelle des outils de la valorisation de la recherche, c'est-à-dire des brevets, des dépôts de licence. Et donc tout ça, effectivement, ça permet à la recherche de traduire ses résultats dans la sphère socio-économique.
Alors, on est en janvier et l'année civile démarre. Est-ce que l'année civile a une importance par rapport à l'année universitaire? Est-ce que vous avez, au niveau de l'Europe, des rythmes qui sont un peu différents parfois sur certains projets?
Ah oui, ça c'est certain. De toute façon, bon, tout à l'heure je parlais un peu des Belges, mais les Belges, par exemple, ont tendance à être financés pour leur thèse sur une durée de 4 ans, alors que nous, en France, on est financés que sur 3 ans. Hein, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes par rapport à des disciplines qui nécessitent plus de 3 ans pour effectivement réaliser une thèse de qualité, hein, ce qui est souvent le cas pour les sciences humaines et sociales, justement, hein, avec une masse bibliographique finalement beaucoup plus importante qu'en sciences. Hein. Et donc voilà des exemples de rythmes différents. Et puis après, c'est vrai que sur les inscriptions de doctorants, eh bien, elles ont lieu pratiquement toute l'année. Mmh. Hein, parce que les pays ne connaissent pas notre mois de septembre et notre mois d'octobre tel qu'on le connaît en France. Et donc dans la mesure où on souhaite attirer de plus en plus de doctorants venant de l'étranger, hein, s'inscrire en France pour suivre leur thèse ici, eh bien effectivement, on est relativement souple par rapport à des inscriptions qui peuvent donc avoir lieu relativement tardivement dans notre année universitaire.
Donc si on résume, il n'y a plus vraiment de date butoir et les appels à candidature sont...
Alors la grosse difficulté, hein, vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est quand même le financement des thèses.
D'accord. Hein.
La question c'est même pas est-ce que je m'inscris, est-ce que je m'inscris pas, la question c'est est-ce que je suis financé pour faire ce travail-là. C'est ça la question que doit se poser aujourd'hui un jeune qui voudrait se lancer là-dedans. C'est vraiment la question du financement de la thèse. Parce qu'on voit bien que partir sur une formation aussi exigeante, aussi longue, hein, parce que c'est 3 ans dans le meilleur des cas, mais bien souvent on sait que ça peut durer 4 ans, 5 ans, parfois même, voire plus, sans financement, c'est vraiment un risque important. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment trouver, c'est des moyens pour que la plupart de nos doctorants puissent être financés pendant la durée de leur thèse. C'est ça vraiment qui est important. Et les écarts avec les pays, c'est là aussi qu'ils se creusent. Parce que, bon, en France, un doctorant touche à peu près, je dirais, l'équivalent de 1 200 € net par mois. Bon, ce qui est correct pour vivre. Hein, pendant les 3 ans de la durée de la thèse, on a des pays où c'est beaucoup moins, hein, où les financements sont moins importants, et puis on a aussi des pays où c'est plus. Alors dans la mesure où on souhaite parfois attirer des Américains ou des Canadiens ou des Britanniques ou des Japonais, eh bien effectivement quand on propose une allocation de recherche au niveau qui est proposé par la France, on a souvent effectivement des réactions qui consistent à dire ben non, finalement je préfère aller dans un pays où le doctorant est mieux rémunéré.
Donc Isabelle Custos, tu as en charge donc le collège doctoral européen Lille-Nord-Pas-de-Calais. Est-ce qu'au niveau supranational il existe un collège doctoral européen général, on va dire européen,
oui,
qui fédère, qui chapeaute un peu tout?
Alors ça chapeaute pas, mais ça organise la réflexion commune, on va dire. En fait, il existe une association exemplaire qui s'appelle l'EUA. L'Association européenne des universités, qui rassemble la quasi-totalité des universités européennes et qui se propose de réfléchir sur des grands thèmes dont on parlait tout à l'heure, les calendriers communs, des socles communs de connaissances au niveau licence, master, doctorat, etc. Et donc cette association européenne, hein, dont le siège est à Bruxelles, a créé un collège doctoral européen. Mais ça n'est pas une super école doctorale, hein. Entendons-nous bien, c'est un lieu qui fédère un certain nombre de réflexions sur cette question. Hein. Donc la question des doctorants, la qualité de leur formation doctorale, leurs compétences, hein, les compétences qui peuvent être mises en œuvre dans le monde académique, mais aussi dans le monde de l'entreprise, et donc leur insertion professionnelle, ça c'est une question très importante également.
Alors, en ce début janvier, enfin, mi-janvier, on va dire, on est encore à l'époque des vœux. Pour les Chinois, ça attendra encore jusqu'au 26. Qu'est-ce que tu pourrais formuler dans le cadre de tes missions qui pourraient engager l'avenir, et notamment en 2009, dans de bonnes conditions?
Eh bien, en 2009, ce qui serait vraiment bien, effectivement, c'est qu'on puisse... bien que les établissements de la région qui sont actuellement en phase de contractualisation avec notre ministère et donc avec l'État puissent effectivement avoir des beaux contrats quadriennaux. Hein, vous savez que les établissements sont financés sur un système quadriennal, mm-hmm. donc puissent avoir des beaux financements quadriennaux qui prennent en compte cette question dont je parlais tout à l'heure, donc du financement des thèses notamment. Mais qui prennent aussi cette question de la mobilité entrante et sortante des doctorants, qui prennent aussi en compte les dispositifs qui permettraient d'accueillir plus facilement des profs étrangers qui viendraient dispenser des cours, des workshops dans les écoles doctorales, parce que effectivement tout ça, ça contribuerait vraiment donc au rayonnement de notre région sur ces questions-là, hein, parce que je le rappelle, c'est quand même un point important, hein, 2300 doctorants en région, c'est quand même pas rien dans de très nombreux laboratoires qui sont de beaux laboratoires bien reconnus et donc voilà, on sait que les doctorants, c'est la vie du laboratoire aussi. Hein. Aujourd'hui, un laboratoire qui n'aurait pas de doctorant en son sein est quand même un laboratoire qui aurait un peu de mal à faire avancer sa recherche. Donc voilà, on a là la ressource vive hein, des laboratoires qu'il faut absolument pouvoir accueillir dans de bonnes conditions et avec une bonne reconnaissance donc, de la compétence de ces jeunes doctorants qui sont quand même des jeunes scientifiques compétents et qui doivent être reconnus à ce titre comme des professionnels.
Isabelle Custos, merci et bonne année 2009.
Merci René.